La première. Podcast. Tout le monde y passe. Le face-à-face.
Street Art Project, c'est le tout nouveau service de Google. Street Art Project, c'est une plateforme dédiée à l'art de rue. Plus de 4000 œuvres y sont déjà accessibles en haute définition. C'est donc l'art de rue visible partout et tout le temps. Que faut-il penser de ce nouveau service ? Street Art Project, est-ce plus qu'un gadget ? Nous posons la question ce matin. Nos deux invités au téléphone. D'abord C215, bonjour.
Bonjour.
C215, c'est votre nom d'artiste. Vous êtes français, vous réalisez des œuvres dans la rue. Et face à vous, au téléphone également, Fred Colantonio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, spécialiste du web et des réseaux sociaux. Alors, vous avez testé tous les deux pour nous ce nouveau service. Fred Colantonio, d'abord, qu'en avez-vous pensé ?
Ah, ben, c'est la force de frappe de Google, hein. Donc, c'est plutôt,
mais encore.
C'est plutôt bien fichu. Ben oui, c'est plutôt bien fichu. Hein. On peut afficher, on peut entrer dans l'institut culturel selon Google, et donc on peut afficher par collection, par artiste des œuvres effectivement de rue, ce qui permet de découvrir de nouvelles choses.
Pourquoi parlez-vous de force de frappe de Google ?
Ben, disons que la stratégie, c'est dit depuis des années, hein, c'est notre objectif de digitaliser, numériser un maximum d'informations au monde. Ben, ils s'en cachent pas, ils disent même toute l'information au monde. Et donc à un moment, la question qu'on peut se poser, c'est quand même c'est quand même l'opportunité de mettre ou de laisser dans les mains d'un seul et même prestataire privé l'ensemble du patrimoine culturel aussi, en plus de technologique, de l'humanité en quelque sorte.
C215.
Donc, c'est fascinant, c'est intéressant, mais en même temps il y a un côté un peu inquiétant qui se dessine peut-être.
C215, qu'en avez-vous pensé, vous, de ce nouveau service, de ce Street Art Project, vous qui êtes un artiste ?
Vous savez, il y a la rue et il y a toujours eu la rue qui s'est couplée à Internet, en fait. Parce qu'on parle de street art depuis quelques années, alors que en fait, ça existait depuis 35 ou 40 ans, l'art urbain, le graffiti et les choses artistiques, en fait, qui soient déposées dans la rue. Mais c'est Internet qui l'a révélé. Ce qui fait que la mise en réseau de toutes ces données et la globalisation de la chose, elle était accomplie déjà depuis le début des années 2000. C'est qu'une étape supplémentaire pour la virtualisation de ce travail, qui est un travail qui oscille entre réalité et virtualité. Donc il y a un effet participatif, chacun contribue à l'œuvre collective de Google, tout comme on peut contribuer dans la rue à une peinture en y inscrivant son nom, en y apposant un sticker, voire en la transformant par une photo. Et là, on franchit une étape de plus.
Chez Google, on dit que ce nouveau service pallie la faiblesse du street art, à savoir son caractère évanescent. Est-ce que c'est là le principal atout de ce service, C215 ?
Alors, je ne sais pas si Google considère que la faiblesse du street art, c'est précisément son caractère éphémère, mais c'est peut-être précisément la force du street art qui est éphémère, ou de ne pas s'accumuler, tout comme s'accumulent sur le web les données informatiques.
Mais là, avec Google, l'art de rue ne sera plus éphémère.
Non, l'art de rue, il est dans la rue, et si vous ne le voyez pas dans la rue, ce que vous voyez, c'est une photo. Donc, ce n'est pas de l'art de rue, c'est de l'art du web, hein. C'est de l'art de votre ordinateur, et dans le cadre, et en fait, le bord de votre écran d'ordinateur, parce qu'en fait, l'art de rue, c'est dans la rue, ça restera toujours dans la rue. Après, c'est la façon dont on le partage et dont on le conceptualise, dont on le conçoit, qui va être mis en ligne et collecté et retranscrit par des sites, des collections, des livres, voire une carte interactive qui est Google Street View. Mais dans l'ensemble, le street art, ça restera street art, et une œuvre restera éphémère dans la rue, et si vous la voyez pas avec vos yeux, les yeux de votre corps, vous n'en aurez pas l'émotion.
Mais est-ce que l'art de rue, quand même, d'une certaine manière, n'entre pas dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, via ce nouveau système ? Ça, c'est une réalité, quand même, C215.
Ce qui rentre dans votre ordinateur, ce sont des JPEG, des photos de l'art de rue. Parce que c'est comme quand vous allez dans les champs, en fait. Vous voyez des fleurs, vous les sentez, c'est beau, il y a quelque chose de magique qui se passe en vous, vous n'arrivez pas spécialement à le définir, vous êtes entouré de fleurs et puis voilà, vous êtes transporté. Et vous pouvez couper une fleur et la ramener chez vous, voire la prendre en photo, la ramener chez vous, ça ne sera pas le champ de fleurs dans lequel vous aurez marché.
Fred Colantonio, vous partagez cette analyse ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être là qu'il y a un côté potentiellement dérangeant qui s'instaure. Enfin, moi, je vois deux choses. La première, c'est en effet le... je partage tout à fait le point de vue de C215, donc ça ne remplace pas l'expérience du réel et du fait d'être en situation pour admirer une œuvre quelle qu'elle soit. Toutefois, la crainte que j'ai, c'est qu'il y a une forme de banalisation liée à cette digitalisation. Et donc, à un moment, certains utilisateurs, peut-être, qui auraient une... peut-être moins de recul par rapport à ces médias et à ces outils, ben, se disent finalement, je grossis à peine le trait, ben, j'ai pas besoin d'y aller parce que je l'ai vu, quoi. Je l'ai regardé sur, je l'ai regardé via Google. Et donc, on sait que ça ne remplace pas cette expérience, mais je crois que ça vaut la peine d'être dit parce que la digitalisation, la digitalisation, un peu comme les médias sociaux, hein, si on n'y prend pas garde, y a beaucoup d'utilisateurs qui s'imaginent pendant un temps que ça va remplacer leurs relations, et puis ils souffrent d'isolement et de solitude malgré tout, quoi. Donc,
c'est 215.
Je voudrais ajouter qu'il y a quand même quelques expériences, enfin, il y a des types d'expériences qui peuvent être extrêmement positives. L'idée de se balader dans un lieu donné et de pouvoir, par exemple, imaginer qu'à tel endroit, il y a eu une œuvre. Donc, confronter le réel et le virtuel. Et voir même peut-être la succession des œuvres qui sont accumulées à tel endroit ou sur tel mur donné parce qu'on s'y trouve et qu'on consulte Google à ce moment-là, ça ajoute une information que la perception sensible ne peut pas générer.
Mais est-ce que vous ne la redoutez pas, malgré tout, ces 215, cette... banalisation, comme l'évoquait à l'instant Fred Colantonio, cette banalisation de l'art de rue.
Ben, vous savez, la banalisation, elle est en train de s'opérer du fait de la propagation de l'art de rue. Maintenant, si le contraire de la banalisation, c'est la raréfaction et retrouver nos murs gris, non, je la redoute pas, non. L'art de rue se banalise parce qu'on a de plus en plus d'art de rue dans la rue, parce qu'on a de plus en plus de fresques. On a de plus en plus d'artistes qui s'expriment dans la ville, et ça, on peut pas le regretter, même si le caractère de ces œuvres n'est peut-être pas aussi poétique ou original que ça l'était il y a une dizaine d'années. Il n'empêche que c'est des œuvres dont on jouit au quotidien et qui transforment nos villes, et qui, si elles disparaissaient, pour de vrai, dans la rue comme sur Google, nous laisseraient un monde un peu plus triste et un peu plus gris.
Fred Colantonio, vous vouliez réagir?
Oui, ce qui est intéressant, c'est de ne pas cloisonner les expériences, en fait. Et donc, c'est de voir comment le street art va pouvoir profiter de cette digitalisation que Google amène, un peu comme ce fut le cas il y a bientôt 10 ans quand on a eu l'essor de l'arrivée de la musique en ligne avec le MP3 et autres. Il y a énormément d'artistes qui en ont profité justement pour se produire eux-mêmes, voire pour créer des œuvres via Internet ensemble et de manière collaborative. Et donc effectivement, il va y avoir un paquet d'opportunités. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment et le street art et le Google Street Art Project vont pouvoir se marier pour être dans une logique qui n'est pas exclusive, ce sera l'un ou l'autre, mais une logique inclusive. Comment est-ce qu'ils vont fonctionner ensemble, l'un et l'autre,
C215,
pour se servir mutuellement.
C215, encore une question. Est-ce que, selon vous, malgré tout, l'art de rue ne vend pas son âme au diable, en quelque sorte, en se retrouvant sur ce service, sur ce Google Street Art Project?
Vous savez, il aurait fallu m'expliquer avant ça qu'est-ce que c'est que l'âme de l'art de rue, parce que dès l'origine du graffiti dans les années 70, il y a déjà eu des artistes de cette scène qui exposaient dans les galeries, qui vendaient des vêtements, des produits dérivés, Kessaring le tout premier. Enfin, je pense que c'est lié à la logique même de l'art de rue que d'aller vers c'est une forme d'autopromotion aussi pour les artistes dans la rue et d'aller dans un système qu'on peut estimer capitaliste, voire autopromotionnel. Donc je suis pas choqué par ailleurs. Ce qui est important, c'est justement, comme il a été dit, qu'il y ait un travail en bonne intelligence, parce que l'air de rien, il y a quand même des tas d'endroits dans le monde qui sont pas accessibles. Tout le monde ne peut pas voyager, et évidemment, tout le monde ne peut pas aller voir les œuvres dans la simultanéité où elles sont réalisées, là où elles se trouvent. Donc il y a toujours un intérêt à s'informer, à savoir ce qui se fait. La dualité entre le virtuel et le réel a toujours existé dans le street art. L'aspect commercial de la chose, des origines du graffiti dans les années 70 jusqu'à ce qu'on appelle la scène street art aujourd'hui, ça a toujours été présent. Donc je pense surtout qu'il faut échapper aux clichés comme quoi l'art de rue, ce serait une rébellion pure, désintéressée, qui n'existerait que dans la rue. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et c'est ça qui en fait un art contemporain, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois virtuel et réel, participatif, interactif, et aussi, bien sûr, abstrait et gratuit. Même l'état de l'éphémérité, vous savez, les œuvres sont éphémères dans la rue. On verra ce que donnera, quelle est la longévité réelle de notre système Internet et de toute cette accumulation de données.
Bien sûr. Je pense
même qu'il y a un moment où la saturation des données fait que les images tueront d'elles-mêmes et qu'il n'en restera que quelques-unes. La prolifération, quand il y a un certain stade, ça élimine complètement la visibilité des choses.
Voilà. Fred Colantonio, dernière question. Vous l'avez déjà un brin évoqué au début de ce face-à-face, mais est-ce que Google n'est pas là maintenant en train de vampiriser petit à petit tous les pans de la culture?
Je ne sais pas si ils vampirisent les pans de la culture, mais si on voit la manière dont ils évoluent au niveau de la stratégie de musique, par exemple, c'est là qu'on doit se questionner sur la manière dont les choses évoluent. Donc, qu'est-ce que Google a fait? Ils ont racheté YouTube en 2006, très tôt. Tout le monde se demandait un peu pourquoi. Enfin, beaucoup de gens se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire à racheter un service de vidéo? Ici, on est en 2014. YouTube est la plus grosse chaîne de télévision au monde. C'est le premier prescripteur de musique au monde. Donc, c'est devenu un canal omniprésent. Et Google s'apprête à lancer son offre payante, avec comme corollaire un durcissement des conditions d'utilisation qui fait que certains artistes risquent de ne plus pouvoir utiliser aussi librement YouTube qu'auparavant. Et bon, on lit sur certaines presses qu'il y aurait même des censures pures et simples de certains artistes qui ne joueraient pas le jeu que Google veut imposer. Donc, de fait, la première phase, elle est toujours super sexy, parce que ça donne une visibilité à la fois mondiale et très locale à des œuvres culturelles et à des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas accès sans ce premier travail de digitalisation. Mais la vraie phase qui pose question, c'est la deuxième. C'est une fois que tout est digitalisé, que ça a été accessible gratuitement pour tout le monde pendant un certain temps, Google reste une entreprise privée qui cherche à faire du profit. Et donc, c'est comment est-ce qu'ils peuvent potentiellement orienter ou cloisonner la liberté de ces artistes-là. Ces 200 cases l'a dit, c'est pas ça qui va faire que le street art va s'arrêter ou continuer demain, mais c'est quelle exploitation potentiellement financière Google va chercher à faire à un moment à travers ce projet.
Dossier à suivre. Donc, merci à tous les deux déjà pour cet échange d'idées autour de ce service Street Art Project, le nouveau service, la nouvelle plateforme dédiée à l'art de rue et signée Google. Merci Fred Colantonio d'avoir été des nôtres en direct ce matin. Merci aussi beaucoup à vous, C215.
Tout le monde y passe sur la première.